foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Monsieur Patrick Coste. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment pour moi un honneur parce que vous avez une passion pour l'école, l'enseignement, et vous avez aussi un parcours sans faute. Alors, je suis un petit peu inquiet de notre entretien. Je vous admire parce que vous avez à Radio Présence une série d'émissions très courtes de 3 minutes où vous dites l'essentiel. Et là, je n'ai que 24 minutes, mais pour un débat, une discussion qui pourrait durer 3 jours, pour un colloque ou une conférence de 3 heures. Et vous êtes en effet philosophe. Vous avez été professeur de philosophie, tout d'abord après l'école normale d'instituteur, puis CPE en zone sensible, lycée professionnel. Je continue votre curriculum vitae parce que c'est pour dire aux auditeurs que vraiment, ça vaut la peine d'écouter monsieur le conseiller technique du recteur, qui est coordinateur culture. J'arrête là. Mais vous êtes aussi, ce qui est très intéressant, moniteur d'escrime. Et puis, vous êtes passionné de philosophie parce que cet été, il y aura un certain nombre de conférences sur psychanalyse, philosophie et bien sûr l'école. Alors, le sociologue que je suis, il est intéressé parce que vous vous dites athée. Et moi, je suis plutôt, je me dis agnostique parce que dans mon métier... D'abord, je ne sais pas qui est Dieu. Dans mon métier, je suis passionné aussi par le fait religieux. C'est ce que j'ai enseigné, et la laïcité, ce que j'ai enseigné pendant de longues années à l'université, à Jean Jaurès, mais aussi dans les recherches au CNRS, que ce soit en Allemagne de l'Est, avant la chute du mur, et puis que ce soit actuellement avec l'islam noir au Sénégal et en Afrique. C'est moi déjà qui parle trop, pardon. Vous avez dit, bon, on ne pourra pas tout dire, nous allons centrer sur 5 mots qui vont par paire. Alors, ben oui, pourquoi pas, égalité, méritocratie, diagnostic et réforme, enseignants et institutions. Et moi, j'ai dit, ben écoutez, on se limite à 2, non, pour ce soir. Famille et autorité. Alors, effectivement, d'où vous venez, votre famille d'instituteurs? Vous êtes tombé, j'allais dire dans le béniquier, non, vous êtes tombé dans des livres quand vous étiez petit, puis ensuite à l'école normale.
Alors, d'abord, bonjour à tous, et puis merci de m'accueillir dans cette émission, qui va me permettre effectivement de développer quelque chose d'un peu plus personnel que les chroniques que je fais d'habitude ici sur Radio Présence. Un petit correctif de détail par rapport à ma présentation. Une grande partie de mon activité professionnelle a été d'être proviseur principal de collège, qui est aussi une autre fonction dans l'institution. Alors, en ce qui concerne mes origines familiales, et c'est pas neutre, mes parents étaient enseignants. Ils ont été instituteurs en Algérie et ensuite ils ont travaillé dans l'enseignement technique. Et mon père a été, à l'époque on appelait ça un directeur de CET, ce qui est devenu ensuite les lycées professionnels, d'abord du bâtiment et de l'hôtellerie. Et c'est vrai que j'ai été baigné dès l'enfance dans les questions d'éducation, dans les questions professionnelles liées à l'éducation. Et j'aurais presque envie de dire que ça a été effectivement une ADN, finalement, ensuite, qui m'a servi de fondation par rapport à toute la suite. Avec des valeurs, et ça on pourra peut-être en parler, qui sont celles du service. Et en l'occurrence là, du service public, puisqu'ils étaient dans le service public, et moi-même j'ai fait ma carrière dans le service public.
Ce qui est d'ailleurs un débat, parce que l'une de vos chroniques, c'est justement la question de l'égalité des chances, de la méritocratie et de savoir, un vrai débat, n'est-ce pas, depuis depuis la loi de 1905 et même avant. L'école est gratuite, l'école est libre, et la laïcité est un des piliers de cette institution. Avec la question qui est posée de savoir est-ce que tout se joue avant 6 ans au niveau du vocabulaire. Alors tout à l'heure, il y a un mot que vous avez évoqué, c'est celui de valeur, principe, valeur. Et on a des croyances. Alors, est-ce que ça fait bon ménage avec le savoir, les opinions? Vous voyez, c'est le débat pour une copie du bac.
Alors, sur le croisement entre les valeurs et le savoir, oui, je pense qu'il y a, il y a un lien entre les deux, au sens où il peut y avoir des opinions qui sont des opinions qui sont destructrices dans le rapport à l'avenir, qui sont destructrices dans le rapport à la communauté. Et donc, par conséquent, il s'agit de transmettre des savoirs qui soient, à l'inverse, structurants, constructifs, qu'ils donnent du possible, de l'émancipation. Et donc, bien sûr, c'est porté par un certain nombre de définitions de valeurs qu'il convient de distinguer par rapport à d'autres qui seraient, qui ouvriraient sur des régressions. Et c'est vrai qu'on est dans une période, de ce point de vue-là, où il y a des grandes confusions entre l'opinion et le savoir. Et en particulier, il faut bien le dire, la référence en termes d'école républicaine, c'est quand même le savoir issu des Lumières.
Qui sont contestés actuellement, et vous l'avez évoqué dans l'une de vos chroniques d'ailleurs, sur la laïcité, la liberté de conscience, mais jusqu'où? Et puis, la question aussi des mesures, puisque le rapport Aubin, entre autres, et bien d'autres, disent que cette laïcité est écornée, si même mise en danger. Alors, c'est depuis même les lois Ferry que ce débat, et nous avons Hervé Terral et bien d'autres philosophes qui exposent ces questions des trois âges de la laïcité et puis de la construction. Ensuite, les débats avec des manifestations dans la rue, nous n'allons pas y revenir, lorsqu'on a dit ben, on va fusionner les deux services, et puis le financement, et puis dernièrement, bien sûr, c'est connu cette question du voile, mais jusque à une dérive, est-ce qu'on peut accompagner, est-ce qu'une dame avec le voile peut accompagner des enfants lorsqu'ils vont dans des sorties scolaires? Alors, c'est donc un vrai débat. Mais justement, pour commencer notre réflexion, où il y a quelque temps, je vous avais envoyé une image, c'est la paracha de Pessah, pour nos frères, nos amis, nos aînés, disent certains, les quatre enfants. Alors cette paracha, cette petite parabole, elle est récitée chaque année à l'office de Pâques. Et il s'agit de quatre enfants, de quatre fils, parce que les filles, dans la Bible, parfois, quand il y a les patriarches et les matriarches, mais on ne parle pas trop de l'éducation des filles. Alors, il y en a un des enfants qui est sage, l'autre est pervers. Je traduis le terme anglais. Hein. Un troisième est simple, moi je dirais simple d'esprit, et l'autre ne s'est même pas questionné. Le sage, que dit-il? Ben, il obéit à son papa et à sa maman. Feras le Shabbat, te reposes, et pourquoi est-ce qu'on allume les bougies et qu'on ne mange pas le jour du Shabbat, le samedi? Et puis alors le pervers, moi je dis plutôt celui qui est un rebelle, l'adolescent, il dit mais pourquoi? Que signifient ces lois? Que signifient ces préceptes, ces ordonnances? Alors tu lui diras, le culte, c'est peut-être pas pour toi, mais c'est pour nous. Et si tu n'obéis pas, tu t'exclus de la communauté. Je vais très vite, hein, parce qu'on pourrait justement dialoguer pendant longtemps, et je crois que c'est justement ce que nous apprennent nos frères ou nos concitoyens, c'est que sans cesse, il faut dialoguer à partir du texte, selon le contexte, prétexte à l'obéissance ou à la rébellion. Parce que celui qui est malade, qui ne peut pas comprendre... Alors, la tradition juive dit, tu lui dis simplement ce qu'il en est. Tu sais pas ce qu'il va retenir. Et puis, le dernier qui n'est pas là, qui est absent, je veux dire, qui est bipolaire ou qui ne peut pas comprendre, eh bien, c'est pas à toi de décider. Et excusez-moi, cher Patrick, parce que comme sociologue des religions, je vois dans le Coran la parabole de Jonas. Hein. Yahvé dit à Jonas, qui est en colère parce que il ne comprend pas pourquoi Yahvé, pardon, Dieu, on ne sait plus comment il faut l'appeler maintenant, hein, mais n'a pas détruit Ninive, la grande pécheresse. Eh bien, Dieu dit à Jonas, ce n'est pas à toi de décider qui a la foi ou qui sera sauvé. Si tu ne le sais pas, Dieu seul le sait. Alors, le problème du maître dans l'école, il se retrouve parfois aussi justement devant ses quatre enfants, l'un qui est turbulent, l'autre qui écoute et qui est qui risque d'être le bouc émissaire de la classe parce que c'est le faillot. Vous nous avez apporté une petite surprise là tout à l'heure. Justement, qu'est-ce que le maître devant cette turbulence de la classe peut faire le silence et dire on va respecter peut-être les opinions de chacun quand il aura levé le doigt et qu'il aura écouté les autres. Et puis d'autre part, nous allons faire 2 minutes de silence pour réfléchir.
Je pense que vous posez le problème, semble-t-il, de l'autorité du maître dans la classe devant une pluralité de subjectivité et de d'intervention que peuvent avoir les élèves. Donc je pense que ça peut être intéressant, effectivement, entre nous, là, de poser ce sujet de l'autorité, parce qu'il y a très certainement quelque chose qui est en train d'être bouleversé, d'évoluer dans ce rapport à l'autorité, que ce soit au sein des familles, au sein des classes, et que ça modifie ce rapport à l'autorité, la relation enseignante et la dimension de transmission que peut avoir l'enseignant devant son public d'élèves.
Ce n'est plus vertical dans l'autorité comme il y a quelque temps, et vous parlez d'un changement dans l'anthropologie, puisque l'enfant, il sera roi, il sera gâté, il sera, voilà. Alors, ce qu'on peut dire en critiquant. Il n'écoute plus à ses parents quand il dit « tu viens à table à telle heure ».
Je crois qu'il y avait une structuration de l'autorité qui était fondée, y compris sur le plan religieux, hein, et avec évidemment une dimension liée des familles aux fondations religieuses qui était dans la loi du père. Et par conséquent, il y avait effectivement une certaine verticalité de cette loi, y compris au sein de la famille. À table, il y a des propos, on disait volontiers, tu ne réponds pas, ce qui imposait évidemment une moralité qui était à respecter.
Et tu viens manger avec nous, que ça te plaise ou pas, et à telle heure.
Et elle n'était d'une certaine façon pas discutable, ce qui marque effectivement ce caractère de verticalité. Alors, il ne s'agit pas, par rapport à ça, de le regretter. Hein. On est passé dans une autre époque, et il faut voir comment on peut faire avec cette évolution caractéristique de l'autorité au sein de la famille. Dans l'articulation entre la famille, l'autorité de la famille et cette loi du père et l'école, j'aurais envie de dire qu'il y avait une articulation qui avait une certaine robustesse. Parce que au sein de la famille, l'enfant était celui dont on demandait une progression de génération en génération. Les milieux modestes étaient dans une demande de réussite et d'une progression sociale d'une génération à l'autre. Voilà, c'est par exemple la figure d'Albert Camus qui passe d'une situation à une autre dimension.
Grâce à son instituteur, d'abord.
Grâce à son instituteur, dans Parole d'homme, comme on sait. Et donc, il y avait en quelque sorte une structure de l'attente, de la demande entre cette loi et puis la façon dont elle était transmise dans l'école. Et donc, la mission de l'enseignant s'inscrivait aussi dans ce désir et cette attente. Le déplacement que j'appelle anthropologique, c'est que la finalité n'est plus qui n'est pas cette attente d'un progrès à partir d'une définition qu'auraient donné les parents. La finalité au sein de la famille, c'est l'épanouissement de chacun.
Alors justement, c'est le cadeau que vous nous avez apporté. Est-ce qu'on apprend avec du plaisir, comme la pédagogie Freinet, ou bien est-ce qu'il faut quand même transpirer pour apprendre les règles de grammaire et le calcul?
C'est un problème très délicat par rapport à sa façon de le définir.
Alors écoutons ce qui plaira beaucoup à nos aînés.
Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage, d'un petit garçon qui a bien grandi et qui maintenant souvent se dit, c'était le bel âge, monsieur le maître d'école. Moi je me souviens encore de vous, joujou, genou, caillou, bijou, et toute la gamme, géographie, récitation, histoire de France et rédaction. Oh quel programme! Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublie jamais.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et Patrick Coste, vous êtes philosophe, vous avez été proviseur, principal, conseiller technique du recteur, et vous venez repréciser ce que c'est que cette nouvelle anthropologie et puis la robustesse de l'autorité telle que se faisait. Mais nous sommes dans une génération zapping et je vais vous redemander de préciser.
Voilà, donc je pars de la famille, hein, c'est-à-dire que il y a un déplacement qui s'est fait entre ce que j'appelais tout à l'heure la loi du père et une demande sur des finalités qui sont de se réaliser dans un progrès. Or là, il y a tout à fait un déplacement de toutes ces coordonnées au sein de la famille où la question est l'épanouissement de l'enfant et l'épanouissement de tous, c'est-à-dire que à la place de la loi du père, c'est forcé un peu le trait, mais il y a une loi des désirs qui l'emporte, et à tel point que les désirs sont susceptibles de faire éclater aussi la structure familiale, avec des familles décomposées, et donc celui qui d'une certaine manière reste le référent familial entre les parents, qui souvent sont quelquefois se séparés, enfin ça représente maintenant un grand nombre, c'est l'enfant dont l'objectif va être d'être au plus près de son épanouissement. Alors donc ça implique qu'on soit à l'écoute de son désir, de ses affects, de ses émotions, qu'il n'y ait pas de violence qui lui soit opposée. Et donc bien sûr, on quitte toute une dimension de la brutalité que pouvait avoir la loi verticale de la situation antérieure. Hein. Donc il ne s'agit pas d'en être nostalgique et avoir une sorte de mélancolie comme ça du temps passé, parce qu'il serait robuste en termes d'autorité. On est passé dans un autre réel. Bon, et donc ces dimensions-là, nouvelles, ces nouvelles coordonnées, auxquels ont affaire aussi les enseignants dans les classes. Et cela implique pour eux de développer des pédagogies qui ne vont pas être des pédagogies dites, par exemple, traditionnelles, qui sont celles du maître qui détient un savoir et qui, de façon descendante, vont l'exécuter, en quelque sorte, auprès de du public d'élèves. Mais il va falloir que l'enseignant tiennent de plus en plus compte de la façon dont il est écouté, de la façon dont il est perçu, de la multiplicité des subjectivités auxquelles il a affaire. Et ça va impliquer des protocoles pédagogiques complexes qui vont se serrer au plus près de cette dimension de l'élève. Alors bien entendu, toutes les pédagogies actives de Freinet, Montessori, Dewey aux États-Unis correspondent évidemment à cette conception de la pédagogie anti-autoritaire. Maintenant, la question est de savoir, et c'est pourquoi cette définition de l'évolution de l'autorité par rapport aux élèves et par rapport au savoir est une question problématique. C'est un sujet problématique. Parce que, certes, on peut se trouver dans une dimension au plus près comme ça de l'épanouissement, mais le savoir demande de surmonter des obstacles pour l'acquérir, implique des efforts, donc des détours. Et un détour par l'effort, c'est pas ce qui répond immédiatement au plaisir et au désir.
Surtout que la génération Z, comme on dit, c'est une génération zapping qui passe de l'un à l'autre. Et il y a une concurrence du maître à travers... avant, c'était la télé, mais maintenant, les jeunes ne regardent plus trop la télé. Ils sont toujours individualisés sur leur smartphone. Et ce qu'on a appelé le pédagogisme, c'est justement cette inversion dans ce rapport d'autorité. Alors, la question de l'égalité... C'est justement ça, de dire, oui, mais alors t'en sais plus que moi, ah, mais ma subjectivité me dit que... ou alors la loi de Dieu. Parce que, est-ce que Darwin, est-ce que c'est bien vrai? Mais ça, c'est vous qui le dites, mais c'est pas ce qui était marqué dans tel ou tel texte que je considère comme sacré, plus important que le savoir que tu veux, que vous voulez m'inculquer. Alors, est-ce que l'école peut... Deux questions très très brèves, mais... Bientôt, il faudra arrêter notre débat. L'éducation peut-elle encore être au cœur d'un projet de société? Est-ce que l'enseignant est une assistante sociale par rapport à ces familles primo-arrivantes? Et puis, il y a surtout des enfants, puisqu'il y a école, éducation sans frontières, qui arrivent chez nous, mais qui n'ont pas de papier, où on dit ils sont mineurs, ils sont majeurs. Un grand débat, nous avons eu ça à Toulouse dernièrement. Bon, trois questions en une.
Pardon. Oui, enfin, je crois juste pour... est-ce que l'école est au cœur de la société? La mission de l'école, c'est de toute façon une transmission de savoir qui est susceptible de préparer les générations de l'avenir à vivre le mieux possible. Et donc, ce que j'indiquais là en termes d'autorité... implique qu'il y a sur cette question de la transmission un déficit notoire, hein, et donc certes on a des alternatives, mais ça ne veut pas dire qu'on ait trouvé les solutions de remplacement par rapport à des rapports à l'autorité qui pouvaient se développer, on va dire, dans des temps antérieurs.
Et ce n'est pas qu'une question d'argent, même s'il y a aussi, lorsqu'on compare PISE ou l'UNICEF et d'autres comparaisons, des questions politiques à régler.
Alors, ensuite, bon, il faudra avoir du temps pour essayer de développer qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde de l'opinion, du zapping, de l'épanouissement en termes de transmission des savoirs. Au moins, on va dire que le propos aura été l'occasion d'en soulever le problème. Vous avez indiqué ensuite un sujet qui portait sur l'égalité. C'est un sujet qui est lié à ce que je viens de développer, parce que se développe en ce moment dans l'école ce qu'on appelle une fracture scolaire, c'est-à-dire qu'il y a des très grandes différences de niveau entre les enfants issus des milieux défavorisés et les enfants qui sont issus des milieux favorisés. Il faut savoir que la France est un des pays où les déterminismes sociaux sont un des plus importants au monde. Hein, je crois qu'il y a le Chili qui se situe à peu près dans les mêmes paramètres. Mais la différenciation sociale est cruciale.
C'est pour ça qu'il faudra que nos auditeurs puissent vous écouter Et en 3 minutes, vous arriverez à synthétiser beaucoup mieux que nous l'avons fait tout de suite. Je voudrais juste terminer par une phrase, parce qu'il faut nous dire bientôt au revoir. L'enfant, ce n'est pas un seau que l'on remplit par le savoir, mais c'est un feu que l'on allume. Et je pense avoir votre conviction, vos croyances dans cette école de la République et dans le but du bien commun, du bien des élèves, mais aussi des enfants, qu'il y a du travail et que tous les enseignants et les parents sont conviés à cela. Je voudrais terminer dans cette radio par une... Je voulais vous dire que le rabbin Jésus de Nazareth, en fait, la première lettre de Marc, il disait « il parlait avec autorité ». Alors, je laisse les auditeurs et je vous laisse méditer sur cette question de savoir comment nous, par rapport à nous-mêmes, nous arrivons à faire la paix et à transmettre ce qui nous semble être les valeurs les plus importantes. Merci Patrick.
Je vous en prie.
À bientôt.
À bientôt.
Et pour vos chroniques, c'est, il faut lire, il faut les podcaster, je ne peux que les conseiller, vous nous dites le chemin,
c'est Radio Culture. Présence. Radio Présence, ensuite c'est la rubrique Société, et c'est l'Actualité de l'éducation.
Actualité de l'éducation. Merci Christophe pour l'enregistrement.